Europe 1, votre matinale info. Thierry Dagiral.
Bon réveil si c'est le cas, toute l'info avec Florence Cohen. Bonjour Florence.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Bienvenue sur Europe 1. Il est 8h.
Quand on va leur redemander au mois de juin la nouvelle cotisation, il va falloir qu'on trouve les bons mots pour qu'ils ne nous demandent pas forcément le remboursement tous. Qu'on trouve une formule pour l'année prochaine sans mettre l'association non plus en danger.
Les petits clubs de football dans la tourmente à cause de la pandémie, quelles aides pour eux ? Dans un quart d'heure, la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, à nous sera l'invitée d'Europe 1.
Des contrôles dans les Alpes-Maritimes et également à Paris pour faire respecter les restrictions anti-Covid. Des restrictions qui pourraient être plus strictes, préviennent les autorités.
Les États-Unis autorisent un troisième vaccin. Le président américain Joe Biden appelle à ne pas baisser la garde face à l'épidémie.
Et puis Carlos Ghosn et son épouse, invités d'Europe 1, dans une heure chez Frédéric Taddeï. Ils publient un livre un an après leur évasion de l'ancien patron de Renault du Japon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ça aurait dû être la grande fête du rugby aujourd'hui avec France-Écosse dans le tournoi des Six Nations. Mais le match est reporté, vous le savez, pour cause de Covid chez les Bleus. Dans un quart d'heure, vous recevrez Thierry, la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu. Mais d'abord, Axel May, rappelez-nous pourquoi la Fédération française de rugby se retrouve ainsi dans la tourmente.
Eh bien, parce que pour participer au tournoi des Six Nations, la fédération s'est engagée auprès de la ministre Roxana Maracineanu à respecter un protocole sanitaire strict. Or, à ce jour, plus de 15 joueurs et membres de l'encadrement du 15 de France, dont le sélectionneur, ont été touchés par le virus. Et on a eu droit à toutes les explications. Une poignée de portes contaminées, un préparateur physique qui aurait été le patient zéro, mais aussi les joueurs de rugby à 7 qui avaient servi de partenaire d'entraînement. Et le président de la fédération, Bernard Laporte, a même eu ses mots. Quand on voit que le chef de l'État a été contaminé alors que son protocole doit être très strict, cela montre combien c'est dur à maîtriser. Pourtant, selon plusieurs témoignages, la bulle sanitaire était loin d'être hermétique. Sans compter que les clusters se multiplient dans les différentes équipes de France, car avant le rugby à 7 et à 15, ce sont les moins de 20 ans qui avaient été touchés le mois dernier.
Voilà, je vous le rappelle, hein, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, à 8h15 sur Europe 1. On va également parler avec elle des clubs amateurs dans la panade, Florence.
Mais oui, parce qu'on a une question. Les supporters des clubs sportifs pourront-ils bientôt revenir dans les stades ? Si on parle beaucoup du sport professionnel, il ne faut pas oublier non plus la situation des clubs amateurs et associatifs. Eux aussi sont frappés de plein fouet par les conséquences du Covid et ils auraient bien besoin d'aide pour survivre. Reportage dans un club de football alsacien, le SUC Strasbourg, avec Mélina Fachin.
D'habitude, le samedi, c'est jour de match, mais depuis plus de 4 mois, il faut se contenter d'un simple entraînement. Le Covid a tout chamboulé pour ce club de foot associatif. Nicolas Baumgartner est le président du SUC Strasbourg.
Il n'y a plus de compétition depuis mi-octobre à peu près, quoi. Quand il y a eu les histoires de couvre-feu, donc on a dû arrêter les entraînements en soirée pour les plus grands. Et eux font plus qu'un entraînement le week-end, au lieu de deux entraînements et un match. Voilà. Ça fait déjà donc deux saisons où ils payent plein pot pour pas faire entièrement la saison.
La licence coûte 110 euros par an. Pour certaines familles qui ont plusieurs enfants inscrits, c'est une dépense importante.
Quand on va leur redemander au mois de juin la nouvelle cotisation, là je pense qu'il va falloir qu'on trouve les bons mots pour qu'ils ne nous demandent pas forcément le remboursement, tous. Qu'on trouve une formule pour l'année prochaine sans mettre l'association non plus en danger.
D'autant que l'autre source de revenus du club, la buvette, est fermée depuis des mois. Nicolas aimerait donc un coup de pouce de l'État. Pourquoi pas aider les familles défavorisées à payer leur licence et surtout, il aimerait pouvoir se projeter, avoir un calendrier, un espoir de retour à la normale. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et la 27e journée de Ligue 1 de football, elle se poursuit ce soir avec l'Olympico. L'OM reçoit l'OL. Hier, le Paris Saint-Germain a battu Dijon 4-0. Le couvre-feu fonctionne très bien, mais on ne peut pas exclure des mesures plus strictes. C'est le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui le dit ce matin dans le journal du dimanche.
Et c'est la deuxième journée de confinement dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque.
Ouais, et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde dans l'arrière-pays niçois, hein, constatent certains habitants. À Nice, les contrôles de police se sont multipliés, beaucoup moins à Cannes et à Mandelieu, pas loin de là, comme a pu le constater le correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel.
On est seul. Ça fait du bien, ouais. Seul au monde.
Des plages désertes, des rues timidement fréquentées, des parkings vides devant de nombreux magasins, à Mandelieu et Cannes, ce samedi après-midi, on se serait cru un an en arrière, au début du premier confinement. Dominique s'est accordé une heure de promenade.
On voit bien qu'il y a moins de monde sous la route et au bord de mer et en bordure de Siagne. Oui, je pense qu'il est respecté, c'est une bonne chose. Parce que nous, on le respecte et on prend l'attestation à chaque fois qu'on sort.
Siagnais, policiers et gendarmes étaient très visibles hier. À l'ouest du département, leur présence était plus discrète, comme a pu le constater ce jeune couple de Cannois.
Non, il n'y a pas de contrôle. Hein. Ça fait une heure qu'on marche, on a fait aller-retour et on n'a pas été contrôlé une seule fois.
On plaint juste les Varois, parce que je pense que tout le monde est parti dans le Var. Hein. Et à la et montagne, à la montagne, voilà. C'est ça le problème.
Il y avait en effet beaucoup de monde vendredi sur la route en direction des stations. Le préfet n'a pas exclu d'ailleurs de généraliser si besoin le confinement. Michel et Françoise, eux, ont profité de l'heure de sortie autorisée pour une escapade au bord de l'eau.
Régulièrement, on fait cette promenade.
Mais nous, on le fait tous les jours, mais plus que ça, hein, d'habitude. Là, c'est bien, il n'y a personne.
On est limité à une heure, c'est un peu juste.
Il faut partir la montre en main et il faut revenir là, on est un peu en retard d'ailleurs.
Allez, 5 minutes de retard, pas de quoi être sanctionné. Hier, dans le département, près de 300 PV ont été dressés, essentiellement à Nice.
Les berges du canal Saint-Martin à Paris étaient noires de monde hier sous le soleil. À Toulouse, les berges de la Garonne vont être fermées ce dimanche et tout le week-end prochain pour éviter des rassemblements de population.
8h06, les États-Unis ont donné leur feu vert à un troisième vaccin.
Oui, celui de Johnson & Johnson, pour préciser, une nouvelle arme dans leur combat contre la pandémie qui a déjà fait 500 000 morts dans le pays. Bonne nouvelle pour un pays qui va donc accélérer la vaccination, Sonia Dridi.
Oui, ce vaccin de Johnson & Johnson présente deux avantages logistiques importants. Il ne s'administre qu'en une seule dose et peut être stocké à des températures de réfrigérateur. Il devrait donc accélérer la campagne de vaccination, comme l'explique le célèbre immunologue Anthony Fauci, conseiller du président Biden sur la chaîne de télévision NBC.
Avoir deux vaccins, c'est bien, mais trois, c'est vraiment mieux. Ça veut dire qu'il y a plus de choix, cela augmente le nombre de vaccins disponibles. Et quand vous avez une compagnie comme Johnson & Johnson, qui a une très bonne réputation au sein de l'industrie pharmaceutique, et qui se joint au groupe, c'est une très bonne nouvelle.
Au moins 3 millions de doses du vaccin sont prêtes à être distribuées dès la semaine prochaine et Johnson & Johnson s'est engagé à en acheminer 100 millions dans le pays avant la fin du mois de juin. Du coup, avec les centaines de millions de doses déjà commandées aux entreprises Pfizer et Moderna, les États-Unis disposeront d'ici la fin juillet d'assez de vaccins pour immuniser la quasi-totalité de la population. Dans un communiqué, le président américain a déclaré que c'était une nouvelle formidable et un pas encourageant dans les efforts pour mettre fin à cette crise. Mais Joe Biden prévient, il ne faut pas pour autant baisser la garde.
Correspondance de Sonia Dridi pour Europe 1 aux États-Unis. En France, c'est la fin d'un marathon annuel. Les négociations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs. Les supermarchés veulent obtenir les prix les plus bas pour vendre le moins cher possible à leurs clients, mais ils veulent aussi faire des marges, hein, c'est logique. Emmanuel Duteil, vous nous emmenez dans les coulisses de ces négociations encore très tendues cette année.
D'un côté, l'acheteur de la grande distribution, parfois les enseignes se regroupent pour avoir plus de poids, d'autres négocient seuls. De l'autre, le vendeur, c'est-à-dire celui qui fabrique les produits que l'on achète en magasin. Ça va de la brique de lait au petit yaourt bio, en passant par le paquet de lessive. C'est un véritable jeu de rôle bien rodé. La grande distribution veut payer le moins cher possible, le fournisseur veut l'inverse. Et du coup, pour arriver à ses fins, chacun a ses techniques. Et on n'est parfois pas loin de l'intimidation. On va l'appeler Paul. Il a négocié pendant des années avec la grande distribution pour des marques alimentaires. Et il nous dévoile les techniques utilisées.
Installer le vendeur sur une chaise qui est plus petite, mais ça serait très fort, faire attendre une durée incroyable. Au moment où on est en train de conclure, faire rentrer une tierce personne qui vient tout remettre à zéro et faire des demandes supplémentaires alors que le deal était quasiment conclu. Voilà, tout ça, c'est des techniques très, très, très employé.
C'est donc une guerre des nerfs, une guerre qui se joue dans les deux sens. Si une marque peut difficilement se priver d'un des grands distributeurs, c'est pareil dans l'autre sens. Une enseigne sans Coca-Cola ou sans les produits laitiers de Danone a tout de suite moins d'intérêt. Et le but de chacun, c'est donc de trouver le moins mauvais des compromis.
Deux frères de 17 et 27 ans en garde à vue après l'assassinat d'un jeune de 15 ans à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Le motif du meurtre semble être un règlement de compte.
Et dans le journal du dimanche matin, trois ministres se veulent sur le pont pour lutter contre les violences entre bandes, Florence.
Gérald Darmanin à l'intérieur, Éric Dupond-Moretti à la justice, Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale. Ils doivent rencontrer demain les préfets d'Île-de-France. Les précisions de Sarah Payou, journaliste au JDD.
Le but, c'est d'avoir un retour d'expérience des préfets d'Île-de-France pour ensuite construire des guides méthodologiques de repérage des bandes à l'intention des forces de sécurité. Et puis aussi, ce qui est demandé, c'est un nouveau diagnostic départemental qui doit être livré avant le 10 mars. Donc ça doit comprendre l'origine du phénomène, une cartographie, l'âge des individus, est-ce qu'ils utilisent des armes, les réseaux sociaux. Et en fait, l'intérieur estime nécessaire ces nouveaux diagnostics parce qu'ils jugent que le phénomène a évolué. Ils ont le sentiment que les affrontements, en fait, sont moins liés à des appartenances à des bandes ou à des quartiers, mais plus à des choses qui se disent sur les réseaux sociaux et notamment dans des messageries cryptées. Et ça, c'est un point particulier d'attention. Ils le disent eux-mêmes, c'est extrêmement difficile, mais il nous faut mieux pénétrer ces messageries.
Voilà, reportage donc pour Europe 1. Et nouveau rendez-vous sur Europe 1, ce sera tout à l'heure.
Bien sûr, Carole et Carlos Ghosn, ce matin dès 9h en exclusivité sur Europe 1, interrogé donc par Frédéric Taddeï.
Et oui, c'était il y a un an, hein, la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn, ancien patron de Renault-Nissan du Japon. Dans 3 jours, avec son épouse, il publie un livre intitulé « Ensemble toujours » aux éditions de l'Observatoire. Un livre sur le Liban où réside le fugitif le plus célèbre du monde, Nicolas Feldman.
I did not escape justice. I fled injustice.
Tout le monde se souvient, ce 8 janvier 2020, devant un parterre de micros, de caméras, Carlos Ghosn livre sa vérité. Sa femme, Carole, est au premier rang.
Je suis très fière de lui. Je vais pleurer. Arrêtez.
À ce moment-là, cela fait 10 jours que l'ex-PDG de Renault-Nissan a fui le Japon sous le coup de 4 inculpations pour corruption. Et son évasion est rocambolesque. En pleine nuit, Carlos Ghosn quitte seul son domicile japonais coiffé d'un chapeau, masque chirurgical sur le nez. C'est caché au fond d'une malle qu'il embarque dans un avion. Le 30 décembre, Carlos Ghosn atterrit à Beyrouth et retrouve sa femme. C'est elle qu'il présentera aux yeux du monde comme la raison profonde de sa fuite. Depuis, le couple vit au Liban. Carlos Ghosn reste sous le coup d'un mandat d'arrêt Interpol. Il est visé aussi en France par plusieurs enquêtes. Au Japon, son procès civil s'est ouvert avant Noël. Nissan lui réclame 80 millions d'euros de dommages et intérêts.
8h12, le salon de l'agriculture n'a pas lieu donc cette année à Paris, mais Europe 1 vient dans le salon des agriculteurs, semaine spéciale, vous le savez, sur cette antenne. Et ça commence dès demain matin dans le 5h-7h de Sébastien Krebs.
Et par ailleurs, des centaines d'initiatives fleurissent en région. Par exemple, ces journées portes ouvertes à la ferme de l'Épinay à Orcémont dans les Yvelines où s'est rendu Pierre Herbulot.
Avec 3 bêtes, un petit marché de producteurs et un potager à visiter, la ferme prend des allures de micro-salon de l'agriculture.
Montée en août, récolte de septembre à avril.
La sortie idéale des vacances pour Betty et son petit-fils Marco, 8 ans et demi, hypnotisé par des plants de blettes.
C'est la première ferme que je vois, par exemple des fruits ou des légumes.
Ouais, tu les vois comme ça dans la terre ?
C'est un peu la première fois.
Ça rapproche la ferme du centre urbain et au lieu d'aller garer notre voiture à Paris, et... non, c'est très bien.
Dans ses bras, un panier avec du miel, des tisanes artisanales et un magret de canard, le dernier vendu par Christophe Morin, producteur de foie gras.
Je trouve ça intéressant parce que pour nous, c'est un moyen de rencontrer nos clients, quoi, en fin de compte, et d'échanger, c'est faire partager ce qu'on vit nous tous les jours, est-ce qu'on produit, est-ce qu'on sait faire, en fin de compte.
C'est justement pour ces échanges que Rémi de Groulard a décidé d'ouvrir sa ferme au public en l'absence du salon de la Porte de Versailles.
C'est de reconnecter le citadin avec la campagne, avec le terroir. Donc c'est important de garder ce créneau-là dans l'année pour parler de l'agriculture.
D'ailleurs, ici aussi, il y a une égérie, Bounty, une vieille chèvre de 15 ans, moins fringante que les vaches top modèles qui défilent à Paris, mais beaucoup plus accessible. À Orcémont, Pierre Herbulot, Europe 1.
Voilà. Bounty, vous l'aimez déjà?
J'adore. Merci beaucoup Florence Cohen, à tout à l'heure pour le dernier journal de cette matinale à 9h.